Après une semaine de jeûne et de prière, c'est vous qui devriez enseigner, en fait. Je voudrais aussi présenter des amis aussi qui sont venus avec nous. Il y a Sarah, qui a été aussi avec nous à l'école à Toulouse cet automne. Et puis Olivier et Cyrielle aussi, qui font partie de notre maison de prière aussi à Bédarid, avec le petit Nathaniel. Voilà. Puis c'est chouette de retrouver aussi plein de têtes connues. Et Avira et moi, en fait, on est arrivés et on a fait une sorte de comité d'accueil là-bas derrière. De tout ce qui arrivait au fur et à mesure et qu'on connaissait et dont on ne savait pas qu'on allait les voir. C'est trop bien. J'aurais pu appeler ce temps de ce matin il y a plus. C'est ça que vous avez reçu, c'est-à-dire. Et j'aurais aussi pu l'appeler amener le ciel sur la terre. Parce que le cœur de mon message de ce matin, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut devenir l'église qui est sur le cœur de Dieu depuis toujours, et la famille qui est sur le cœur de Dieu depuis toujours, qui tire le ciel sur la terre. Et je crois qu'on est... J'ai l'impression qu'on est un peu comme à une... on est comme sur un... Vous savez, des fois dans notre vie ou dans certains moments, on sent qu'on est comme à un point de bascule dans quelque chose de nouveau. Et dans ces moments-là, on ne sait pas comment faire. Et dans un sens, c'est plutôt bien, parce que si on savait comment faire, on ferait certainement des bêtises. Et beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Mais je crois qu'on est à une sorte de point de bascule. Le monde est sur un point de bascule autour de nous. Tout le monde parle de crise, tout le monde parle de... Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir BFM et toutes les infos que vous regardez. Le monde autour de nous est sur un endroit de point de bascule, mais je crois que nous aussi, en fait, on a besoin de basculer dans autre chose. On vit plein de choses qui sont extraordinaires dans notre vie avec Dieu. Le « il y a plus », ce n'est pas une négation de tout ce qu'on a vécu. D'accord ? Ça, c'est important. C'est quelque chose que j'avais à cœur de dire ce matin. Quand on dit « il y a plus », ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a déjà vécu, ce n'était pas bien. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'était pas assez. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres dimensions, il y a d'autres révélations de Dieu, il y a d'autres choses qu'on peut toucher et avec lesquelles on veut avancer. Et le plus dans lequel on veut aller, c'est pas un plus en disant, en méprisant tout ce qu'on a déjà vécu. Et je veux vous inviter vraiment à vous positionner comme ça, à la fois en tant qu'église et à la fois au niveau personnel. Le plus, ça veut pas dire, oh là là, tout ce que j'ai vécu avec Dieu jusqu'à maintenant, c'était pas assez. C'est pas un reflet, le reflet du cœur de Dieu qui dit, ce que tu fais, c'est pas assez, la manière dont tu me sers, c'est pas assez, ce que je vis avec toi, c'est pas assez, tu m'aimes pas assez. Et je veux le dire parce que souvent, quand même, c'est un endroit où l'ennemi vient appuyer et où il vient amener beaucoup d'accusations et de condamnations dans notre vie. Le pas assez, tu fais pas assez, tu n'es pas assez. Et la condamnation et l'accusation, vous le savez tous, est-ce qu'une seule fois, ça vous a aidé à changer ? Non. L'accusation et la condamnation, ça ne nous aide jamais à changer. Au contraire, ça nous prive de l'énergie, de la vie et de la joie qui va permettre à Jésus de nous transformer. Alors quand on dit « il y a plus » ou quand on dit « on veut plus », ce n'est pas une négation de ce qu'on a vécu avant et ce n'est pas non plus en méprisant ce qu'on peut vivre déjà, ce qu'on a déjà vécu. Non, quand on dit « il y a plus », c'est de dire « mais on a tout ce qu'on a vécu, c'est déjà extraordinaire. » Et c'est extraordinaire me donne envie d'aller plus loin. Notre plancher, c'est l'extraordinaire, c'est la qualité déjà de ce que j'ai pu vivre avec Dieu. C'est le fait que Dieu était déjà là présent à plein de moments, les moments faciles, les moments difficiles, c'est les expériences que j'ai faites spirituellement, c'est les choses qui se sont ouvertes. Tout ça, c'est ma plateforme pour le plus. C'est pas il y a plus de frustration, c'est il y a plus de joie et d'émerveillement de qui est Dieu, bien au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer. Vous connaissez, c'est un verset qui est dans Éphésiens, et qui clôt un moment où Paul il parle de l'amour de Dieu qui est large, qui est long, qui est haut, qui est profond, et il parle de ce que Dieu veut mettre dans notre vie, et à la fin il parle de ça et il dit il rencontre Dieu qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et le Dieu qu'on sert ce matin, celui à qui on a donné notre vie, et celui qui est le maître du plus dans lequel on veut avancer, c'est celui qui se réjouit de toi. Ah, il y a un truc que j'aime bien faire, je vais le faire avec vous. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui ça, mais pas juste pour le répéter, mais c'est une vraie chose qu'on est en train de dire et c'est une chose importante, elle est puissante. Dieu a de la joie en toi. Il a de la joie dans ta vie, dans l'état exact où tu es ce matin. Pas dans la perfection que tu aimerais avoir, pas dans un idéal que tu n'atteindras peut-être jamais. Non, Dieu a de la joie en toi tel que tu es ce matin et tel que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est la base avec laquelle Dieu veut travailler pour t'amener dans le plus. C'est un plus... Restez avec votre voisin, là. C'est un plus dans la joie, pas un plus de frustration de Dieu. Vous pouvez dire ça. C'est un plus dans la joie. Olivier, au début du culte, il a dit qu'on voulait sortir de la religiosité. Une des choses qui vient nous attaquer et qui nous garde dans la religiosité, c'est l'impression d'un Dieu qui est toujours frustré à notre sujet. Et qui, quand il nous parle du plus, c'est comme s'il veut plus. Et ça, c'est l'image qu'on a souvent, parce que c'est l'image qu'on a de l'autorité, c'est l'image qu'on a de quelqu'un qui règne, c'est l'image qu'on a de quelqu'un qui est Dieu, c'est plus. Non, c'est pas ça. Quand Dieu dit plus, c'est un plus de joie, c'est un plus d'émerveillement, c'est un plus d'anticipation, où Dieu se réjouit de ce que tu es, et il se réjouit encore, toi, de ce qu'il va ajouter à ta vie, et de ce qu'il va ajouter à tes œuvres, et de ce qu'il va ajouter à Connect, et de...
c'est quoi l'hôtel du parc ?
Et de l'hôtel du parc, ou autre chose, peu importe qui doit venir, et de vos différentes œuvres, et de vos différentes entreprises. La personne qui est le plus heureuse d'être là, et d'être au milieu de vous, quand vous êtes ensemble, c'est Jésus. Il se réjouit avec vous, il se réjouit même de la maçonnerie à moins de 2 degrés. Ça change notre vision de l'Église et ça change notre vision du salut. Et là aussi, ce matin, je voudrais dire, quand on parle de ce que Jésus a fait et quand on parle d'Église, il y a plus. Le fait d'être délivré de nos péchés, est-ce que c'est important ? C'est bien. Vous devriez être plus enthousiaste que ça, en fait. C'est très important. Merci Jésus pour ça. Le fait qu'il est venu nous libérer de nos chaînes et libérer les captifs, est-ce que c'est important ?
Oui.
Ouais. Merci Jésus pour ça. On pourrait énumérer tout ce qu'on connaît du salut, tout ça c'est important. Mais il y a quelque chose de plus que Jésus a fait et qui se reflète quand on lit les évangiles, c'est qu'il est venu établir un royaume. Le mot royaume, il revient 140 fois dans le Nouveau Testament et il revient 118 fois juste dans les quatre évangiles. Ça veut dire que la prédication de Jésus telle qu'on la connaît, on l'axe souvent vers le fait que Jésus nous a sauvés, qu'il nous délivre de nos péchés et qu'au travers de ça, on a la vie éternelle. Et c'est vrai, on s'en réjouit, c'est une chose qui est tellement importante, ça change notre vie pour l'éternité. Mais il y a plus. Il y a le fait que Jésus est venu établir un royaume. Il est venu pour libérer au milieu de nous une autre vie. Il est venu pour nous permettre de démontrer aussi à tous ceux qui sont autour de nous une autre vie. Il est venu pour libérer son pouvoir et libérer son autorité, pour faire les choses que nous ne pouvons pas faire. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu qui mettent au service de Dieu leurs dons et leurs talents, mais qui reçoivent aussi de lui une capacité et une autorité qu'on n'a pas en nous-mêmes, qui leur permet de manifester le royaume et de montrer qui est Dieu. Et je veux insister là-dessus. On a le droit de dire des trucs un peu qui Donc Olivier a dit, je m'excuse, je le connais plus, alors qu'on avait le droit de dire des choses qui piquent un peu. Je fais une approximation. Il y a 20 ou 30 ans de ça, ou 40 ans, l'Église était enfermée sur elle-même beaucoup plus encore que ce qu'elle l'est maintenant. Et on n'avait pas du tout l'idée que Dieu pouvait utiliser des dons, des talents, nous utiliser avec des compétences, nous faire développer des expertises pour nous faire démontrer son royaume. Du coup, on était vraiment concentrés sur une vie qui était une vie cultuelle. Et puis tout ce que tu as énuméré là, tout à l'heure, je ne sais plus tout, là, le café, l'école, là, toutes les choses que vous savez, en fait, il y avait une grande séparation entre l'Église et puis toutes les œuvres qu'il pouvait y avoir autour. Et encore plus entre l'Église et la vie spirituelle et toute la vie qu'on pouvait avoir au quotidien et la vie professionnelle qu'on pouvait avoir. Il y a des gens qui ont essayé de se battre pour une réconciliation entre la vie chrétienne et la vie professionnelle et ils y ont perdu quelques cheveux. On a un peu progressé et dans ces 20 ou 40 dernières années, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on a découvert un truc de folie, c'est que Dieu en fait nous avait donné des dons, des talents qui nous permettaient de nous former, qu'on pouvait devenir bon dans quelque chose, qu'on pouvait devenir compétent, qu'on pouvait développer des expertises dans différents domaines et que Dieu allait l'utiliser. Et que c'était important pour lui, et qu'il y a quelque chose de la vie qui pouvait être répandue au travers de ça, et du royaume de Dieu qui pouvait être manifesté au travers de ça. Et ça, c'est trop bien. Maintenant, c'est le moment qui pique. Si on ne fait que se réjouir de nos compétences, de nos dons et de nos talents, et qu'en fait, on ne se sert que de cette partie-là, qui nous est propre en fait, que Dieu nous a donné, pour témoigner, démontrer le royaume de Dieu, alors on oublie la partie de Dieu. On oublie la partie de son pouvoir, on oublie la partie de son autorité, on oublie la partie du surnaturel, on oublie la partie de l'extraordinaire, on oublie la partie de ce qu'on ne peut pas faire. Et le royaume de Dieu, c'est plus, ça englobe, je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, au contraire, c'est pour ça que je le construis comme ça. C'est les compétences, les dons, les talents, les expertises, etc. Et le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, les révélations de Dieu, la vérité de Dieu, la vie de Dieu, le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu qui est libérée au milieu de nous, et la capacité de voir aussi ce que nous ne pouvons pas voir, et de faire ce que nous pouvons faire. Ça, c'est le royaume. Et pour une église qui est, je ne sais pas si c'est un mot que vous employez, mais certains, en tout cas, vous le comprenez ici, pour une église qui a une dimension apostolique, comme celle que vous décrivez, pour moi, c'est tellement important. Il faut que dans les fondations de votre vie et dans les fondations de votre église, il y ait quelque chose qui soit marié entre tout ce qui est du domaine des compétences, des dons, des talents, tout ce qui est du domaine des œuvres, tout ce qui est tout ce que vous pouvez accomplir et la puissance de Dieu, la réalité du ciel qui vient sur la terre, les ressources d'en haut. Il y a quelque chose qui doit se développer et qui doit venir et qui doit faire que ce qui est impossible aux hommes et qui est possible à Dieu peut venir au milieu de vous. Mais réjouissez-vous des compétences, réjouissez-vous des expertises, réjouissez-vous des talents et réjouissez-vous de la puissance de Dieu libérée au milieu de vous. Ce qui, Jésus est venu et il a manifesté la compassion, il a manifesté son cœur, il a été... il a servi certainement de plein de manières ce qui était autour de lui, mais il a manifesté la puissance de Dieu. Il a manifesté la puissance du royaume. Et une dimension apostolique et prophétique, c'est pas une dimension qui est juste une dimension de gens brillants, parce qu'il y a des gens brillants ici. Il y a des gens brillants, il y a des gens engagés. Mais vous avez une valeur ajoutée. Il y a quelque chose de plus. Qui est ce pourquoi Dieu vous a amené dans cette ville, et qui est ce pourquoi Dieu vous demande de vous y tenir. C'est le désir de Dieu d'être manifesté dans ce qui est au-delà, dans le plus. Parce que mettre ensemble des gens brillants pour accomplir quelque chose, On n'a pas besoin de Dieu pour ça aujourd'hui. Il y a plein de gens qui savent le faire. Par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas. C'est tout ce qui relève de la nouvelle création. Ça, on ne peut pas le créer. Le royaume de Dieu, personne ne peut le créer. Une sagesse d'en haut, un discernement, la connaissance des temps, la puissance de Dieu qui est manifestée, les choses surnaturelles qui se manifestent, le service des anges. Est-ce que ça fait partie de votre vie d'église? Est-ce que ça fait partie de notre vie? La réalité de Dieu qui se manifeste aussi au travers de leur service à eux. La réalité du ciel. Toutes ces choses, elles font partie de ce que Jésus pose quand il parle du royaume. Et on a besoin de faire, et on est au bord d'une sorte de bascule que Dieu nous propose, de dire le plus dans lequel je vous amène, c'est pas juste un plus de compétences, c'est pas juste un plus d'œuvres, c'est pas, je vais piquer, ça va piquer encore une fois, je vous préviens, c'est pas juste un plus de prière et un plus de jeûne, c'est un plus de la puissance de Dieu, de sa réalité et de sa vie qui est libérée et qui est manifestée. C'est un plus du ciel qui vient et qui est libéré sur la terre. Tout à l'heure, on a, à un moment donné, dans la louange, on parlait du fleuve de Dieu. T'as pris quelque chose sur les... Voilà. Le fleuve de Dieu, trop souvent pour nous, c'est une... On n'a pas le temps, et puis c'est pas l'objet de ce matin, mais ça serait intéressant de dire de quoi on parle, en fait, quand on parle du fleuve de Dieu. Parce que trop souvent, c'est une espèce d'image de quelque chose ou de symbole de quelque chose, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais si on va à la racine de ce que Jésus est en train de dire et de ce qui est écrit dans la parole, le fleuve de Dieu, c'est une vraie chose. C'est une vraie réalité. Il y a un vrai fleuve dans la Jérusalem céleste. Est-ce que la nouvelle Jérusalem fait partie de notre réalité? Ou est-ce qu'elle est juste quelque chose qui est très 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 loin? Et finalement, on ne sait pas trop comment l'aborder, on ne sait pas trop quoi en faire. Non, il y a un vrai trône sur lequel Dieu est assis. Et ça se passe maintenant. Il y a une vraie dimension de louange, de prière, il y a des parfums. L'Apocalypse, c'est l'histoire de parfums qui montent. Nos louanges qui ne sont pas que des mots, mais qui sont des parfums qui montent et qui environnent le trône de Dieu. C'est Apocalypse, c'est la description de nos prières qui viennent remplir des coupes devant le trône de Dieu. Et à un moment donné, ces coupes sont versées sur un vrai autel, j'insiste sur le mot vrai, quelque chose qui est réel. Et le bras de Dieu bouge, et il accomplit des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a de la soif en nous, est-ce qu'il y a un désir en nous d'aller dans ce plus-là? Parce que ça va nous faire basculer dans autre chose. Et pour ça, on a besoin de devenir une famille de Dieu qui redécouvre aussi l'univers de Dieu, pas seulement dans son aspect matériel, et visible, mais aussi dans tout ce qu'il a de plus surnaturel, de plus spirituel et de plus étonnant pour nous. Pour certains, peut-être, quand on parle de ça, c'est extraterrestre complètement. Je ne me fais pas d'illusions. Mais est-ce que c'est important, en fait, que ça soit extraterrestre ou pas? Oui. Ça l'est, de toute manière. Mais on en a besoin. Dieu l'a fait pour ça. Et je crois qu'il y a une dimension du ciel... avec laquelle Dieu veut nous réconcilier, et il y a une dimension du ciel que Dieu veut nous révéler, et qui va aussi nous aider à faire en sorte que la puissance de Dieu et que son pouvoir soient libérés au milieu de nous, et que son royaume soit manifesté, et que d'un côté, il puisse y avoir vraiment une dimension des compétences, des œuvres, etc., qui soient développées, mais qu'il y ait une dimension surnaturelle, qu'il y ait une dimension de la réalité du ciel, que tout ce qui est dans les cieux, soit des ressources qui puissent être libérées au milieu de nous. Et les deux vont ensemble. Et le but de ça, il est lié à un petit mot qu'on trouve dans les évangiles. C'est un petit mot qui est ecclésia. Ecclésia, c'est traduit par église. Et ecclésia, c'est un petit mot particulier. C'est un mot qui est d'origine grecque et qui décrit une assemblée de personnes qui est convoquée dans un endroit public et qui est comme un conseil, en fait, qui a une qualité politique, qui délibère sur les choses importantes. L'Ecclésia à Athènes, c'était une assemblée de citoyens qui délibéraient sur les sujets importants qui concernaient la ville. Ils n'étaient pas juste là pour faire des choses, mais il y avait un côté de gouvernement qui était posé sur eux. Il y avait une autorité sur eux pour décider de l'avenir de la ville, pour décider si on va rentrer dans une guerre ou pas, pour décider de certaines questions au niveau politique, etc. Alors, on peut être impliqué dans la politique de manière humaine, mais parce que Dieu est assis sur un trône et parce que Jésus est le roi d'un royaume, il y a une dimension politique, il y a une dimension de gouvernement dans le règne de Dieu. Et il y a une ecclésia spirituelle, il y a une église qui est une ecclésia, qui est une assemblée, qui est un conseil, qui est une famille au travers de laquelle Jésus a envie de gouverner et de libérer un gouvernement qui est spirituel et qui va agir dans les cieux, qui va agir dans le monde spirituel pour que les choses soient changées sur la terre et que le pouvoir de Jésus, que la puissance de Jésus soit libérée, que sa vie soit vue. Et c'est vrai pour les individus, on le voit à chaque fois qu'il y a une guérison, qu'il y a de la délivrance, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a des percées dans notre vie. Mais c'est vrai aussi à l'échelle d'une église, c'est vrai à l'échelle d'une œuvre, c'est vrai à l'échelle d'une ville. Et Jésus, il nous appelle comme une famille, on a plein de dimensions. Il nous appelle comme une famille, il nous appelle comme une épouse, mais il nous appelle aussi comme une ecclésia. Il nous appelle à être au-delà de la norme, à être au-delà de l'agitation du quotidien pour libérer ses ordres et pour faire en sorte que son gouvernement puisse s'établir sur la terre. Ça, c'était la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est le rôle de l'Ecclésia. Elle le prie et elle le libère dans l'esprit pour que sur la terre, il y a des choses qui se passent. Et notre révélation du ciel, notre compréhension du ciel et notre capacité à voir ce que Dieu fait, à entendre ce qu'il fait et à vivre avec une dimension de révélation, à connaître les réalités célestes et les réalités d'en haut, ça va nous aider à aller vivre sur la terre et ça va nous aider à expérimenter vraiment ce gouvernement de Dieu sur la terre. Il y a un verset qui est dans Romains 4 au verset 17 qu'on utilise souvent quand on parle du prophétique et qui parle du fait d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comment on peut faire pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? On a besoin, si elles ne sont pas, ça veut dire que dans le matériel, dans le visible en fait, on ne les perçoit pas. Mais dans la pensée de Dieu, dans les ressources qui sont dans le ciel, dans les choses qui sont prévues, dans les livres qui sont dans les cieux, elles sont quelque part. Et à un moment donné, il y a un peuple qui est appelé à voir ce qui est écrit dans les livres célestes. Il y a un peuple qui est appelé à entendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Il y a un peuple qui est appelé à entendre ce qui est la parole de Dieu et à le déclarer sur la terre et à le libérer sur la terre. Et à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient jusqu'au moment où ces choses qui, pour l'instant, sont existent dans le ciel viennent et peuvent exister aussi sur la terre. Elles peuvent exister dans nos vies, elles peuvent exister pour nous, elles peuvent exister pour ceux qui sont autour de nous, elles peuvent exister pour la ville de Montélimar, puisque c'est aussi votre fardeau, et elles peuvent changer les choses. Alors, ça c'est ma prière pour vous, que vous puissiez devenir une église qui est capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, de voir ce qui est en réserve, qu'est-ce qui remplit les réserves du ciel, qu'est-ce qui remplit qu'est-ce qu'il y a comme trésor là-haut que Dieu veut pour vous? Il y a les opportunités qui sont en bas, et il y en a déjà beaucoup, mais il y a les choses que Dieu a en réserve en haut. Des choses qu'on ne peut pas concevoir humainement, des choses que l'œil humain ne va pas voir, mais des choses que Dieu peut pointer, et il peut dire c'est le temps pour ça, ou moi je vais libérer ça, ou je vais faire ça. Et à partir du moment où on les voit et où elles sont révélées, alors on peut commencer à les appeler et on peut commencer à faire en sorte qu'elles soient aussi libérées sur la terre. Il y a un roi qui avait compris ce modèle de gouvernement-là, c'était David. Je vais faire une petite parenthèse au sujet de la vie de David et puis après ça, on va reparler de son modèle de gouvernement. David, il a eu une vie qui a fait qu'il aurait pu faire partie de ceux qui se sentaient toujours trop faibles, trop petits, rejetés, mis de côté. Et il aurait pu ne jamais penser et ne jamais faire les pas qu'il fallait pour se retrouver dans une position de gouvernement. Il était rejeté par sa famille. On pense que c'était probablement un enfant illégitime. Il a failli ne pas pouvoir rencontrer le prophète qui finalement l'a oint comme roi. Il était rejeté par ses frères. Alors lui, en l'occurrence, il n'avait aucune formation. Sa seule formation, c'était de garder les troupeaux pour sa famille et pour ses frères. Donc, il a joué de malchance, en fait, à tous les niveaux. Et humainement, il n'était pas du tout la personne adéquate pour une place de gouvernement. Mais il avait quelque chose de très spécial, David. Il avait un cœur, ça c'est une chose que plusieurs vous connaissez. Comment est-ce que la Bible décrit le cœur de David ? Si on traduit littéralement, c'est « il avait un cœur comme le cœur de Dieu », selon le cœur de Dieu. Mais c'est comme si le cœur de David reflétait le cœur de Dieu, au point que c'était plus fort et c'était plus important pour Dieu que tout ce qui pouvait aller de travers dans la vie de David, parce qu'il y avait quand même deux, trois trucs qui n'allaient pas bien. Ça nous aide aussi. C'est pas parce qu'il y a deux, trois trucs qui ne vont pas bien dans notre vie que Dieu ne nous prend pas pour répandre son royaume et pour manifester qui il est. Levez la main si vous pensez qu'il y a deux, trois trucs dans votre vie qui ne vont pas encore tout à fait bien. Voilà. Eh bien, vous êtes à l'égal de David et de tout plein d'autres, en fait, que Dieu a utilisé. Et ça aussi, je le dis, parce que ça, la religiosité, c'est aussi ça. On veut couvrir les choses qui ne vont pas dans notre vie, faire comme si tout allait bien, parce qu'on pense que là, Dieu va pouvoir nous utiliser. Non, si on attend d'avoir réglé les choses qui ne vont pas, on va attendre un moment. On a une responsabilité de s'en occuper, aussi pour ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas une apologie de ne rien faire. Occupons-nous des choses qui ne vont pas dans notre vie pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous, parce que ça va aider. Mais Dieu n'attend pas qu'on ait réglé toutes les choses pour commencer à nous utiliser pour manifester son royaume. Et il n'y a aucune circonstance de vie qui est capable de nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc David, finalement, il s'est retrouvé malgré tout à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et il se retrouve roi. Et quand il se retrouve roi, il est entouré d'une tapée de gens qui sont des gens qui sont très doués. On les appelle les hommes forts de David. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on les appellerait, mais ils auraient été bien dans la bande de gens compétents, plein de talents, brillants et entreprenants dont on peut rêver. Et en plus, ils étaient forts, c'était des stratèges, c'était des bons guerriers, ils étaient entraînés. Donc David, il s'était entouré de gens qui étaient très humainement, qui avaient beaucoup de compétences et qui avaient beaucoup de force. Et pourtant, quand il va arriver et qu'il devient roi, il fait quelque chose de très particulier. Il dit, je ne serai pas roi sans que le Dieu soit élevé, adoré et puisse libérer sa parole et son pouvoir 24 heures sur 24. Et David, il met à part dans son palais un endroit qu'on appelle le tabernacle de David. Et dans ce tabernacle, en fait, il rassemble des gens qui ne sont pas du tout les gens qu'on amènerait dans une place de gouvernement. Il prend des gens qui sont des musiciens, des chanteurs, des artistes, des prophètes. Et il va les mettre là et il leur donne une tâche. Adorer Dieu, élever son nom, écouter et déclarer les paroles de Dieu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et David dit, c'est à partir de là que j'exercerai mon gouvernement. Donc on a un roi avec des dizaines de vaillants hommes, des dizaines de héros, des gens qui sont forts, des gens qui sont doués. David était très très bien entouré, mais il choisit de venir compléter cette force et cette puissance humaine avec un endroit à partir duquel peut s'exercer l'autorité de Dieu et peut être libéré le pouvoir de Dieu. Et je redis ce verset de Romains 4 pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le royaume de David, c'est un royaume qui est connu pour avoir été le plus étendu de toute l'histoire. C'est le moment où le territoire d'Israël a été le plus étendu de toute l'histoire des rois. C'est lui qui a été le plus conquérant. C'est aussi le royaume pendant lequel il y a eu le plus de paix. C'est pas rien. Hein. David, c'est quelqu'un aussi qui a libéré beaucoup d'actes de justice dans sa vie. C'était un roi qui était juste. Il a été un modèle au point qu'à un moment donné, Dieu dit qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône et que le royaume de David durera éternellement. C'est la fin d'Ésaïe 9 que vous avez peut-être lu dans la période de Noël. Là, il y a cette partie avec car un fils nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, etc. Et à la fin, il y a une espèce de déclaration sur le fait que le royaume de David, c'est un royaume qui durera éternellement. Et Dieu attache son nom à cet homme, et il attache son nom à ce roi, et il dit, ce royaume-là, il n'aura pas de fin, et la paix dans ce royaume-là n'aura pas de fin. Et des centaines d'années plus tard, David va avoir un successeur qui est Jésus. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, est présenté à plein de reprises comme le fils de David. Il est reconnu comme le fils de David par la foule. Il est reconnu comme le fils de David par les enfants. Il est reconnu comme le fils de David, c'est assez intéressant, plusieurs fois par les aveugles. Il est reconnu comme le fils de David par ceux qui l'accueillent à Jérusalem, juste avant la dernière Pâque qu'il va vivre. Vous savez, il y a ce moment où il est accueilli dans Jérusalem et il y a la foule qui l'accueille en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il y a cette... un peu comme cet acte qui est prophétique en fait et qui annonce qu'un jour Jésus reviendra en roi à Jérusalem et les gens qui l'accueillent sont là et ils acclament Jésus fils de David. Ils pourraient acclamer Jésus roi des rois, ils pourraient acclamer Jésus roi d'Israël, ils pourraient acclamer Jésus seigneur des seigneurs, ils pourraient acclamer Jésus le Messie simplement. Mais ils choisissent, et il y a quelque chose de fort qui est libéré à ce moment-là, non, ils accueillent Jésus, fils de David. Et c'est important parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Jésus est le descendant de David qui va être assis éternellement sur ce trône, sur le trône de David, et qui va régner pour toujours, et il va régner éternellement. Et l'histoire commence dans cette petite place, dans ce palais de David, où David aligne son cœur sur le cœur de Dieu, et où il accepte que malgré ses propres compétences, malgré l'onction qui est sur lui, parce qu'il ne faut pas oublier ça, il a été oint. Samuel est venu, il a oint David, ça veut dire qu'il y a sur David l'onction nécessaire pour être roi. Et David dit non, ben ça ne sera pas suffisant pour moi. Je veux en plus que quelque chose dans mon palais manifeste la réalité du trône de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Arche de l'Alliance, il la place dans son palais et il refait dans ses palais ce qui se passe dans le ciel. Il établit tout autour un service d'adoration continuel, un service de gens qui chantent, qui louent, qui prient, qui adorent, qui libèrent des sons, qui libèrent de la musique, qui vont s'attacher à faire en sorte que dans le palais de David, sur la terre, ça soit comme au ciel. Et à partir de cet endroit-là, David va gouverner. Et ce qui a fait la puissance du règne de David, c'est pas juste que David était exceptionnel. C'est pas juste les hommes forts qui étaient autour de David. Ce qui a fait la puissance de David, c'était la puissance qui était libérée dans ce petit endroit. Qui représentait quoi? Simplement le ciel. Sur la terre. Quand on lit dans Apocalypse 4 et 5, on peut lire une description de ce qui se passe dans le ciel continuellement. Et on a une sorte de réplique, en fait, avec David. Apocalypse 4 et 5, on a quoi? On a la description du trône de Dieu qui est là, qui est au milieu. Et tout autour du trône de Dieu, il y a les êtres vivants, il y a les vieillards qui sont là. Et puis il y a la multitude qui est là devant sur la mer de cristal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. C'est ce moment où on a cette adoration qui est là. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Tout-Puissant qui est, qui était, qui vient. Ils jettent leur couronne devant le trône. Ils se prosternent. Ils adorent. C'est à cet endroit-là qu'on a ce cantique nouveau qui est chanté encore et encore sur l'agneau immolé qui a donné sa vie pour que des hommes de tout peuple, de toute race, de toute nation, de toute langue puissent être là et être un royaume pour Dieu son Père. Et toute cette réalité-là, en fait, qu'est-ce que David fait? il l'a, on peut dire ça comme ça, il l'a reproduit sur la terre et il l'a reproduit dans son palais. Parce qu'il a conscience que son pouvoir à lui, même son onction, ni celle de tous ceux qui sont avec lui, ne suffisent pas pour ce que Dieu veut faire dans son temps et dans sa génération. Alors qu'est-ce que David va chercher ? Il va chercher à rassembler le ciel et la terre. Et comment il le fait ? Il le fait en manifestant quelque chose du ciel sur la terre, au travers de ce qu'on a appelé le tabernacle de David. Et quand vous serez chez vous, relisez Apocalypse 4 et 5. Apocalypse, vous avez sûrement déjà dit ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire Apocalypse ? Révélation. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est là juste pour nous expliquer ce qui va se passer à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est là pour nous parler de qui est Jésus, de comment ça se passe dans les cieux, pour nous montrer le trône de Dieu, pour nous montrer ce que nos yeux physiques ne voient pas. Quand on parle du ciel, une des choses qui se passe souvent, c'est que toute une partie d'entre nous ici, la première réaction, c'est de dire « oui, ben moi je ne vois pas tout ça ». Et du coup, on se met un peu à l'écart et on se met de côté. Et la question, c'est pas est-ce que je vois ou est-ce que je vois pas. La question, c'est ça se passe, c'est réel. Dieu l'écrit dans la, Dieu le met dans la Bible. Jean l'a vu, il l'a décrit et il nous le partage. Ézéchiel fait pareil, il consacre deux chapitres entiers à décrire ce qu'il voit du trône de Dieu. Alors il y a ceux qui voient et il y a ceux qui voient pas. Il y a ceux qui entendent et ceux qui entendent pas. Il y a ceux qui ressentent et ceux qui ressentent pas. Et ensemble, on est une famille qui est capable de voir, d'entendre, de ressentir, de comprendre, de connaître et d'avoir accès à la révélation du ciel. Et chacun, on va percevoir le ciel différemment. Mais tous, on a été appelés pour ça. À partir du moment où on est né de nouveau, à partir du moment où on est devenu une nouvelle création, nous sommes entrés dans le royaume. Et le reste fait simplement partie de notre marche avec Dieu. Et je sais que quand je dis ça, je viens taper contre des forteresses et des années d'incrédulité et de déception qui font que il y a toujours cette espèce de point d'interrogation au-dessus de beaucoup d'entre vous qui dit « moi, je ne sais pas ». À un moment donné, ce point d'interrogation doit s'effacer. Et on veut briser ça. Parce que tu es une nouvelle création, le royaume t'est accessible. Parce que tu es une nouvelle création, le ciel et la terre en nous sont réconciliés. Et Jésus nous apprend à marcher à travers les réalités célestes. Et quand on voit ces réalités, alors on peut les libérer sur la terre. Je reprends cet exemple parce qu'il est... On peut dire dans n'importe quelle circonstance qu'on veut que le fleuve de Dieu soit libéré au milieu de nous. Mais c'est une chose de dire que le fleuve de Dieu soit libéré au niveau de nous, parce que au milieu de nous, parce que t'en as envie et parce que ça se dit. Ou ça vous arrive aussi de dire des fois des trucs. On dit des trucs parce que ça se dit quand même. Surtout le dimanche matin. Le dimanche matin, encore plus que le reste du temps, on a une sorte de un truc qui nous monte. On a plein de petites phrases un peu toutes faites comme ça. On ne sait pas pourquoi ça nous remonte et ça nous sort, surtout quand on prêche, quand on préside ou quand on conduit la louange. On ne sait même pas trop qu'est-ce qu'on est en train de dire, mais on l'a tellement entendu qu'on le redit, en fait. Mais si quelqu'un nous demandait qu'est-ce que ça veut dire, des fois, on serait bien en peine de d'expliquer ou de mettre quelque chose derrière. Mais on peut aller plus loin, en fait. Quand tout d'un coup, je parle du fleuve de Dieu qui peut être libéré, comme c'était ce matin, parce que je le vois, parce que je le sais, parce que je sais que je peux mettre les pieds dedans, parce que je sais qu'il est réel, parce que je sais qu'il coule d'en haut, parce que je sais que c'est pas juste une image de quelque chose, mais c'est une vraie chose, il y a une vraie eau de vie que Dieu donne gratuitement, à laquelle je peux venir voir, à laquelle je peux venir boire. Alors tout d'un coup, ça prend tellement de sens. Et une partie de notre combat en tant que chrétien, ça va être ça. Et une partie de notre bascule, ça va être ça. Que des choses qui pour l'instant sont des images ou sont floues, des réalités célestes qui sont floues, que ça devienne vrai pour nous, que ça devienne réel, que ça devienne partie de notre vie. Partie de notre vie avec Jésus et partie de notre vie les uns avec les autres et partie de ce qu'on peut vivre ensemble. Et tout d'un coup, alors, si on parle du fleuve, ça ne parle pas juste de quelque chose, mais ça veut dire qu'il y a un fleuve qui coule là au milieu de nous, et quand j'y entre et quand je m'y plonge, ben je m'y plonge avec une foi qui est tellement plus grande et qui est tellement plus forte. David, dans les psaumes, il décrit beaucoup de choses de la réalité humaine, mais il décrit aussi beaucoup de ses expériences spirituelles et de ses expériences du ciel. Et je vous encourage à relire les psaumes de David en prenant conscience de tout ce qu'il a vécu et qui parle de ce qu'il a vécu aussi dans les cieux et qui fait que ça a été libéré sur la terre. Il y a plein de psaumes où David parle du fait que tout d'un coup il y a des combats et on ne sait pas ce qui se passe, mais tout d'un coup au verset 14 ou 15 ou 7, tout d'un coup c'est « et mes ennemis sont dispersés ». Mais sur la terre, au moment où ça se passe, il n'y a encore rien qui s'est passé. Les ennemis sont toujours là. La guerre n'a peut-être même pas encore eu lieu. Et lui, il a cette déclaration, mes ennemis sont dispersés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si ça ne s'est pas passé sur terre, ça veut dire qu'il l'a vu quelque part. Il l'a vu dans les cieux. Il a été chercher sa victoire en haut. Nous, on a besoin d'apprendre à remporter nos batailles là-haut, à être comme David. David, il l'a fait pour lui et il l'a enseigné aux gens qui étaient dans le tabernacle. La preuve, c'est qu'on n'a pas juste des psaumes de David, on a des psaumes d'Azaph, des psaumes d'Eman, des psaumes de Jedutun, des psaumes de noms que je n'arrive pas à prononcer. Et tous, en fait, ils ont cette même chose, c'est qu'ils sont là. C'est vraiment spécial quand même, ça nous défie hein. Ils sont dans la présence de Dieu, ils vont jouer, ils vont chanter, ils vont libérer des chants, ils libèrent des paroles, ils libèrent des sons, et à un moment donné il y a quelque chose de la puissance de Dieu qui vient sur eux et ils voient quelque chose d'en haut, ils voient quelque chose du ciel qu'ils vont libérer sur la terre, et pouf, les ennemis sont dispersés, ou tac, il y a quelque chose qui se passe, ou Et toutes ces choses qui sont libérées du ciel, à un moment donné, elles vont être libérées sur la terre. Et quelque chose du gouvernement de Dieu s'est établi aussi pour eux. La bascule, pour moi, une partie de la bascule qu'on est appelé à vivre, c'est ça. Il faut qu'on bascule là-dedans. Il faut que vienne le moment où le ciel vienne sur la terre, où les ressources du ciel viennent sur la terre, où les victoires du ciel viennent sur la terre, où les paroles de Dieu sont libérés sur la terre, où les destinées de Dieu sont libérées sur la terre. Au travers de gens qui vont faire des choses qui semblent toutes petites. Et une partie, ça va être des choses à faire sur le terrain. Ça, c'est pour les entrepreneurs au milieu de vous. Mais une partie, ça va être des choses à vivre dans l'adoration et à vivre dans la présence de Dieu, des choses à aller chercher dans les cieux pour les dire, pour les appeler et pour les tirer sur la terre. Ma prière aujourd'hui, c'est que Connect devienne un endroit qui ne connecte pas que les... Je ne sais pas pourquoi vous vous appelez comme ça. Qui connecte les gens entre eux, qui connecte les réseaux entre eux, qui connecte des compétences entre elles, qui amène de la synergie. Mais la plus grande de toutes les synergies, c'est le ciel et la terre qui avancent ensemble. Et si vous vous appelez Connect, alors soyez un endroit où le ciel et la terre avancent ensemble. Et si c'est dans votre vision, alors vraiment que Dieu vous donne d'entrer là-dedans, pleinement. Pas juste, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on a l'idée qu'on va le faire. Mais à un moment donné, en fait, notre danger, c'est que parce qu'on est très humain et on est très incarné, on va déployer beaucoup d'énergie humainement. Et on déploie beaucoup d'énergie de manière terrestre. Et par-dessus, on saupoudre un peu les choses de prière, d'un petit peu d'adoration et de trois proclamations. Là, c'était l'endroit où ça piquait aussi un peu. Il y a un renversement qui doit se produire. C'est le temps pour un renversement. C'est le temps pour un renversement où on met de l'énergie à adorer Dieu, à le chercher, à se tenir devant lui. Parfois il se passe quelque chose, parfois il se passe rien. C'est pas grave, on continue. On fait des choses insignifiantes. Chanter quelques chants, prophétiser quelque chose, prier quelque chose, libérer une parole, un acte prophétique. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Jusqu'au moment où on sent qu'il y a quelque chose qui a été libéré dans le ciel. On a appelé quelque chose qui était là, qui n'était pas encore. Et cette chose-là, elle est... Il y a quelque chose qui est... C'est comme dans les films, là, quand t'as... C'est le gars qui essaye d'ouvrir le coffre-fort. Tout d'un coup, il entend clic. Et là, tu sais que ça y est, tu peux ouvrir. Et quand on entend le clic, alors là, on peut commencer à s'agiter parce qu'il y aura du taf. Mais souvent, en fait, on s'agite d'abord. C'est pas vrai ? Franchement, je partage ce moment d'humilité. On s'agite d'abord et après, on saupoudre avec un peu d'adoration, de prière, de proclamation, de méditation et de tout ce que vous aimez. Et de bannière aussi. Mais toutes ces choses, elles ont leur place. Amenez les bannières, amenez les artisans, amenez les créatifs, amenez les musiciens, amenez les chanteurs, amenez les peintres, amenez les danseurs. Amenez, venez ensemble. Enlevez les chaises. Jusqu'au moment où il y a le clic. Et là, alors, on peut... Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire avant, mais il y a une inversion, il y a un renversement qui doit se produire. Et ça, c'est vraiment ma prière pour vous. De devenir un peuple et une famille de Dieu qui se réjouit des œuvres de Dieu sur la terre, mais qui a une connaissance et une compréhension des œuvres de Dieu qui sont en réserve au ciel, des ressources de Dieu qui sont en réserve au ciel, des livres de Dieu qui sont écrits dans les cieux, du ministère des anges au milieu de nous, et de la réalité de ce qui se passe autour du trône, pour entendre le cœur de Dieu, pour capter le moment où dans le ciel, il y a un moment où Dieu dit « Ok, c'est maintenant ». Et dans ce renversement, alors il y a de la puissance qui est libérée, il y a de la gloire qui est libérée et on va commencer à voir quelque chose du ciel venir sur la terre et se manifester dans nos vies d'une autre manière. Et j'aimerais vraiment finir en priant spécialement pour tous ceux qui disent, puisqu'on parle de percée, je veux voir une percée dans cette révélation du ciel. On est dans un pays qui nous enferme dans l'incrédulité, dans le rationalisme, dans le doute, dans tout ce qui est sceptique et dans le fait que 99,9% de notre vie est basée sur ce que je vois dans le monde matériel qui m'entoure. Alors que 99, ou même je vais dire 100% des choses qui vont se produire sur la terre se décident où ? Dans le ciel. Donc, et je voudrais prier dans ce sens. Je veux prier pour votre église, mais je veux prier aussi pour ceux qui ont à cœur. Si vous dites, moi, je veux voir une percée là-dedans, vous pouvez la vouloir et y croire, et vous pouvez la vouloir et ne pas y croire. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je vous promets que j'ai prié pour des tas de choses. Ça pique aussi un peu, mais c'est vrai. Il y a des tas de choses pour lesquelles j'ai prié, je n'y croyais pas du tout. Vous savez pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible. Anne, elle est allée prier à Shiloh, elle croyait plus du tout qu'elle allait tomber enceinte. Zacharie, qui servait dans le temple, il était là devant l'autel des parfums, il voit un ange, quand même, pour de vrai, physiquement, avec ses petits yeux-là. Et il discutaille avec l'ange qui lui dit qu'il va avoir un fils. Il dit, mais non, c'est pas possible, ma femme est trop vieille, je suis trop vieux, c'est plus le moment. Et il y croyait pas. Est-ce que ça a empêché Jean-Baptiste de venir ? Ah, vous avez pas l'air sûr, là. Va falloir faire une petite étude du début de l'évangile de Luc. Eh ben non, il est venu. Il n'y croyait pas du tout, Zacharie. Anne, elle n'y croyait pas du tout. Est-ce que ça a empêché la naissance de Samuel ? Non. Donc, pour tous ceux qui disent, moi, je veux que cette année, ça soit une percée pour moi dans la révélation du ciel, je voudrais prier pour vous, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça n'a aucune importance. Si il y a un désir, il y a une soif pour ça dans notre cœur, alors je vous invite à vous lever et on va finir comme ça.